Bonjour frères et sœurs, chers amis. Donc c'est vrai que les jeunes sont sollicités là, durant les semaines à venir. Et j'aimerais encore vraiment vous encourager à mettre ce temps à part pour être avec d'autres jeunes, parce qu'il y aura les jeunes d'autres églises qui seront là le samedi 16 septembre, donc samedi prochain, à partir de 18h30, comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie, c'est un sujet important. Et donc, prions que Dieu puisse éclairer chacun et que chacun comprenne que Dieu peut le guider s'il prend le temps de chercher sa volonté. Alors, quant à nous, nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 6, nous voyons ensemble le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus au début de son ministère, donc nous avons vu qu'il a donc choisi parmi les disciples des 12 apôtres, donc des personnes qu'il va justement former pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Et puis le Seigneur va donner ses paroles d'encouragement. Je ne sais pas si je parle trop fort, ça va? Okay. Les paroles d'encouragement à ses disciples, en leur disant qu'ils sont heureux parce que le royaume des cieux est à eux. Ils seront dans la joie. Il leur dit réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande. Donc c'est vraiment des paroles d'encouragement, alors qu'ils vivaient dans une société où lorsque ceux qui pensaient être heureux ou dans la joie, c'était ceux qui étaient riches. Alors le Seigneur nous dit non, c'est pas la richesse qui fait la joie, c'est le fait de le connaître et le fait aussi de reconnaître sa pauvreté spirituelle et même le fait d'accepter d'être pauvre pour pouvoir le suivre. Alors tout ça, ce n'est pas en vain. Après, il dit que le disciple doit montrer sa différence avec ceux qui ne le connaissent pas, parce que le but, c'est d'attirer les hommes à Christ, c'est d'être la lumière du monde, comme il le dit dans Matthieu. Alors, il dit aux disciples, alors oui, aimez les autres. Dieu, il est bon envers les ingrats et les méchants. Alors vous aussi, soyez comme votre Père, miséricordieux. Donc soyez bon envers tous. Et là, nous arrivons au chapitre, donc toujours chapitre 6, mais au verset 37. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Et nous allons voir aujourd'hui que notre Seigneur attend de nous, attend de ses disciples. Donc les disciples, ce sont ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui veulent suivre le Seigneur. Ils attendent de ses disciples qu'ils soient des disciples accomplis. Et c'est le verset 40 où le Seigneur dit cela. Il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et donc, aujourd'hui, nous allons voir vraiment cette attente du Seigneur, comment être un disciple accompli. Et donc, lisons les paroles de notre Seigneur à partir du verset 37. Il dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Jusque-là. Voilà, dans cette partie, le Seigneur Jésus encourage son disciple, encourage ses disciples, mais je vais dire son disciple de manière vraiment particulière, pour dire qu'il s'adresse à chacun individuellement à être un disciple accompli. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, le verset 40. Dans la version Semeur, la version ou la version second 21, il est dit, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Un disciple accompli est un disciple qui est bien formé. Effectivement, notamment les apôtres, ceux qui seront les plus proches, alors ils seront là dans ce temps de formation. Le Seigneur, il a 3 ans, il va passer 3 ans avec eux et il va les former. Pour qu'après, lorsqu'il va remonter au ciel, que ses apôtres puissent continuer l'œuvre que le Père leur a confiée. Donc, être un disciple accompli, un disciple bien formé, c'est ce que le Seigneur attend de nous tous qui avons mis notre foi en lui et qui disons donc être ses disciples. Alors, dans ce texte, j'aimerais souligner plusieurs traits caractéristiques d'un disciple accompli ou d'un disciple bien formé. Je dirais qu'il a un comportement juste envers ses frères, dans le verset 37 à 42. Il veille donc à l'état de son cœur, mais aussi il obéit à la parole de son maître, et ça dans les versets 46 et 49. Le disciple accompli a un comportement juste envers ses frères. Le Seigneur Jésus a dit, « On vous mesurera, au verset 38, avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et dans Galates, l'apôtre Paul, il dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et dans ce passage, quand il dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez ou bien pardonnez et vous serez absous, donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera la mesure dont vous vous serez servi. » Le Seigneur Jésus-Christ veut montrer là le contraste qu'il doit y avoir entre son disciple et ces hommes religieux, ces pharisiens qui étaient là, qui aimaient juger, qui là jugeaient dans le sens qui aimaient critiquer, qui aimaient condamner. Ils observaient et dans un seul but pour voir comment attaquer, voir ce qui est mal, etc. Et ces personnes étaient là tout le temps en train de juger. Alors il dit pour ses disciples, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Dans Luc chapitre 5, il parle des scribes et pharisiens qui se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ?» Ils se mirent à raisonner. Ils sont là, ils observent et puis ils cherchent à voir la petite bête. Ils n'arrêtent pas de murmurer, comme il est souligné au verset 30 du chapitre 5. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Donc, tout le temps en train de murmurer. Dans chapitre 6, verset 2, il dit, « Mais pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Après, ils disent, les scribes observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Ouais, ils observaient, mais dans le but d'accuser, et ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Des personnes qui sont là juste observer, voir pour pouvoir accuser, pour pouvoir condamner, tout le temps en train de critiquer. Et le Seigneur dit ses disciples, c'est pas comme ça que ça doit se passer. On ne doit pas être là pour juger, pour condamner, pour critiquer. Et pas dans un esprit donc constructif. Et parce qu'il n'arrêtait pas de juger, de condamner ces personnes, alors le Seigneur dit, vous serez, il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Tu condamnes, mais fais attention de ne pas être toi-même aussi condamnable. Et après, au chapitre 11, le Seigneur adresse plusieurs paroles de malédiction à l'encontre de ces pharisiens. Je ne veux pas tout lire, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 37, il dit « Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. » Vous voyez tout de suite, « Ah, tiens !» On va manger, c'est pas laver les mains. Donc, mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté, insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres, etc. Donc le Seigneur va donc juger, parce que lui, il peut le faire, ces pharisiens qui n'aimaient que critiquer. Donc, comme ils aimaient juger, le Seigneur les a jugés. Et le Seigneur dit que ses disciples, notamment dans Matthieu chapitre 5, verset 20, que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas différent de ces gens-là, si vous êtes comme eux tout le temps en train de critiquer, c'est signe que vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ne pas juger, et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamné. Donc ne pas juger, on comprend que ça veut dire ne pas condamner les autres, ne pas parler mal d'autrui pour le rabaisser dans le but de s'élever soi-même. Et ces pharisiens aimaient faire ça, tout le temps en train de chercher à rabaisser les autres. Et le Seigneur demande justement de s'humilier, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera », nous dit Jacques au chapitre 4. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Oui, donc Jacques dit cela au chapitre 4, versets 10 à 12, de ne pas parler mal. Ne pas juger, c'est ne pas mépriser son frère sous prétexte qu'il ne mange pas ou qu'il ne boit pas comme nous on fait. Hein. Voilà, et dans Romains chapitre 14, l'apôtre Paul dit, faites attention. Il ne faut pas que pour une histoire de repas, qu'il y ait la division parmi vous. Et là, quand il y avait les repas fraternels, un jugeait celui-là, l'autre disait, ah tiens, il a fait ceci, il a mangé cela. L'apôtre Paul dit dans Romains 14, verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun aura à rendre compte pour ce qu'il aura fait, de bien ou de mal. Arrêtez de juger, il dit. Alors, donc on comprend que lorsque le Seigneur dit ne jugez point, vous ne serez point jugés, c'est dans le sens de ne pas être tout le temps en train de critiquer, dans le sens de rabaisser, de parler mal, de condamner l'autre. Mais le Seigneur, en tant que, nous dit, en fait, en tant que disciple accompli, et c'est là le trait des caractéristiques, c'est porter un jugement juste, nous demande, nous montre que, on peut avoir ce discernement, hein, parce que il attend de son disciple qu'il soit capable d'exercer un jugement juste, plein de discernement et de sagesse. Et c'est en cela que un disciple accompli, c'est quelqu'un qui peut voir une chose, l'analyser, et puis voir comment parler à l'autre, mais dans le but pas de le rabaisser, mais de l'élever. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 7, verset 24, dit, ne jugez pas selon l'apparence, dit, mais jugez selon la justice. Un disciple accompli est capable d'avoir un jugement équilibré. Un jugement équilibré pour discerner entre celui qui dit être un frère et celui qui ne l'est pas. Bien que parfois ce n'est pas toujours évident. Dans Matthieu chapitre 7, versets 3 à 6, versets 15 à 16, le Seigneur parle de cela pour pouvoir reconnaître le frère et celui qui ne l'est pas, parce que par son attitude, par les fruits, sa manière de faire, ça témoigne que ce n'est pas un frère. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on fait telle ou telle chose, ce n'est pas possible. Et donc le Seigneur nous dit, il ne faut pas se voiler la face, on doit pouvoir reconnaître cette personne qui est là, mais qui est un faux frère finalement. Le disciple accompli doit pouvoir discerner le bien et le mal. Dans Thessaloniciens chapitre 5, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà. Examiner toute chose, il faut analyser, il faut pouvoir écouter, dire est-ce que ça c'est selon Dieu ou pas. Le disciple accompli doit pouvoir, et notamment au niveau de l'Église, pratiquer ou appliquer la discipline dans l'Église. Ça aussi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul reprend justement ces chrétiens de Corinthe parce que y avait un péché manifeste dans cette église et personne ne disait rien. Voyez? Et l'apôtre Paul reprend sévèrement cette église et même ses responsables parce qu'ils n'ont pas jugé la situation et pris les mesures nécessaires pour discipliner cette personne qui était en faute. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, lorsqu'il y a les différends entre les frères, là encore l'apôtre Paul reprend cette église parce que au lieu de régler le problème entre eux, ils allaient voir les juges à l'extérieur, l'un portait plainte contre l'autre, et puis c'était un témoignage néfaste pour l'église. Mais l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne savez pas que vous jugerez les anges et vous allez devant les hommes pour être jugés. Y a-t-il pas parmi vous un homme spirituel qui puisse porter un jugement? Alors, c'est en ça que le Seigneur demande d'être des disciples accomplis, bien formés, pour pouvoir avoir un jugement juste, notamment au niveau de l'Église. Et pour exercer ce jugement juste envers ses frères, le chrétien doit être un croyant spirituel. Ça veut dire une personne remplie de l'esprit, une personne qui marche selon l'esprit. Et c'est dans Galates, chapitre 6, on peut prendre vite fait ce verset, où dans Galates, l'apôtre Paul, après avoir dit à ces Galates de marcher selon l'esprit et pour ne pas accomplir les désirs de la chair, au chapitre 6, verset 1, il dit « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il dit « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Oui. Vous qui êtes spirituel, il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes rempli de l'Esprit de Dieu, et vous qui vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, et donc, dans l'Église, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes spirituels qui puissent être capables d'accompagner d'autres. Et quand il faut redresser, il faut redresser. Bon, et ça fait partie du travail du pasteur, des anciens dans l'Église. Alors, à nous de nous assurer d'être des hommes spirituels, des hommes remplis de l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu pour pouvoir porter un jugement juste. Mais il y a des choses qui peuvent se régler sans que ça arrive, je dirais, sans que le pasteur soit vraiment là. Non, entre frères et sœurs, il y a un petit différent, on peut régler la chose parce qu'on est un disciple accompli. On peut régler les choses parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous montre et on ne cherche pas à rabaisser l'autre, mais on cherche à l'élever. Et quand on est un disciple accompli, on doit aussi accepter que l'autre qui veut nous reprendre, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider à grandir. Dans son commentaire, MacArthur dit que, en fait, devant Dieu, les croyants spirituels n'ont pas le droit de ne pas reprendre. Il leur est ordonné. Et lorsqu'une église se soucie de discipliner ses membres, elle est en bonne voie de devenir pure et utile. Voilà. Et donc, ça fait partie de la vie de l'église. Et dans l'église, on doit s'assurer surtout qu'il n'y ait pas des mauvaises choses qui arrivent. Et lorsque une personne vit qui pêche, voilà, on doit pouvoir porter un jugement et reprendre la personne pour que l'Église ne soit pas entachée. Et ça aussi, c'est notre responsabilité. Alors, pour exercer un jugement juste, le disciple de Jésus, et ça ne concerne pas que les responsables, pour tout disciple de Jésus, doit veiller à son enseignement, afin de ne pas être un aveugle qui conduit un autre aveugle. C'est ce que nous dit le Seigneur au verset 39, quand il donne cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, si on n'est pas imprégné de la parole de Dieu pour faire un bon usage de la parole de Dieu, pour accompagner, pour reprendre, pour corriger celui qui n'est pas dans le droit chemin, alors nous sommes aveugles comme celui qui est aveugle. Et l'autre chose, lorsque le Seigneur dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, je pense que là encore, tout chrétien doit avoir à cœur d'être un disciple accompli. Il doit avoir à cœur de progresser à l'écoute de son maître pour pouvoir être utile pour ce que son maître attend de lui. Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que voilà, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, être un disciple accompli pour porter un jugement juste envers les frères, mais aussi le disciple accompli, il veille à l'état de son cœur. Les versets 43 à 45 me font dire cela. Le Seigneur dit que ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le caractère véritable de tout homme transparaît dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui le dit. Voilà, on voit le caractère de la personne, on voit aussi l'état de son cœur dans ce qu'il fait et comment il agit. Et comme le Seigneur l'a dit au verset 38, il demande de ne pas soigner l'extérieur si l'intérieur est sale. Le Seigneur veut d'abord travailler à l'intérieur, purifier l'intérieur pour que l'extérieur puisse être pur aussi et pour que l'extérieur puisse l'honorer, le glorifier. Et parfois, il y a des gens qui préfèrent s'attarder à tout faire pour nettoyer l'extérieur, donner une bonne image, une bonne impression, alors que l'intérieur est sale. Et Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il le fait. Dieu veut travailler notre cœur. Et pour cela, il doit d'abord changer notre cœur. Et c'est en cela que heureux les pauvres en esprit, ce sont ceux qui reconnaissent l'état de leur cœur, ceux qui reconnaissent que ce cœur, ils sont méchants, ce cœur dur, ce cœur de pierre a besoin d'être transformé. Ils s'humilient devant le Seigneur et le Seigneur transforme ce cœur de pierre en cœur de chair, comme il le dit dans Ézéchiel. Donc pour avoir ce bon cœur, pour être quelqu'un qui honore Dieu par sa façon d'être, par sa façon de parler, partout, c'est parce que son cœur a été transformé par Dieu. Et tant qu'on ne laisse pas Dieu agir dans notre cœur pour nous transformer, nous ne pouvons pas être une personne qui honore Dieu par notre vie et nous ne pouvons pas non plus être la lumière du monde. Et là, le Seigneur nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous disons exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour donner donc de bons fruits, il faut être un bon arbre, que nous dit le Seigneur. Et pour être un bon arbre, il faut que son intérieur soit bon. Et si nous voulons avoir une bonne conduite, notre cœur doit être bon. Le Seigneur Jésus a dit au jeune homme riche, qui disait, oui, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pour le tourner, pour lui montrer que c'est de Dieu que peut venir le changement. Et pour cela, il faut avoir un cœur bon, il faut donner son cœur à Dieu. J'aime bien ce texte de Proverbes, chapitre 23, qui dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Mon fils, donne-moi ton cœur. Tant qu'on n'a pas compris que le cœur est le siège de tout, et que ce cœur, nous devons le donner à Dieu pour qu'il puisse nous transformer, pour faire de nous ce qu'il veut, alors nous ne pouvons pas être ce disciple accompli. Dans Jean chapitre 15, Le Seigneur dit qu'il est le cep et les disciples s'arment pour expliquer en combien c'est important que c'est de l'intérieur que ça vient. Et il prend l'image de la vigne et il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas attaché à moi qui suis le cep, vous, en tant que sarment, vous ne pouvez pas porter de fruits et même vous allez être sec et on va vous casser et vous serez brûlé, jeté au feu. Et donc, c'est du Seigneur Jésus-Christ que peut venir la source de la vie. C'est lui qui peut nous transformer et c'est lui qui peut faire voir qu'on porte de bons fruits. Et c'est en étant attaché à lui que nous pouvons le faire. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul prie le Seigneur vraiment qu'on soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Voilà, il dit, afin que Christ habite dans nos cœurs. Voilà, il faut que Christ prenne toute la place dans notre cœur pour qu'il puisse agir, nous transformer comme il le veut. L'apôtre Pierre, il dit au chapitre 3, verset 15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc, pour avoir ce cœur bon et être ce disciple accompli, comprendre que Dieu doit changer, transformer notre cœur et en donner à Christ la première place. Le disciple accompli obéit à la parole de son maître. Et c'est ce troisième point que j'aimerais voir dans les versets 46 à 49. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc là, le Seigneur souligne l'importance de mettre en pratique ce que nous lisons dans sa parole. Mettre en pratique ce qu'il nous dit. Donc, le disciple accompli est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Non seulement il vient à Jésus pour le suivre, pour son salut, il entend ses paroles, mais il veut mettre en pratique. Et là, la démarche du chrétien doit être semblable à ce qui est dit là. Donc, quelle que soit la situation, venir à Jésus-Christ, c'est important pour lui présenter notre situation. Lorsque nous avons des moments de méditation, on vient à lui, on prie, on lui dit ce que nous avons sur le cœur. Nous ouvrons sa parole, nous la lisons. Et puis après, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons ce que nous avons lu? Est-ce que lorsque le Seigneur nous corrige, lorsqu'il nous reprend, est-ce que nous cherchons à, avec son aide, corriger ce qu'il nous demande. Le disciple accompli, lorsque face à l'adversité, il tient ferme, et comme Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on leur a demandé de se mettre à genoux devant cette statue, ils ont refusé, même si sachant qu'on allait les jeter dans cette fournaise ardente. Ou bien Daniel, lorsque on lui a demandé de ne plus prier son Dieu, il a continué à le faire. Donc, l'obéissance à Dieu avant tout, et croyant aussi que Dieu est celui qui garde et protège. Pour devenir un disciple accompli, j'aimerais aussi lire avec vous deux passages dans Hébreux chapitre 13. Alors prenons Hébreux chapitre 13, nous allons lire les versets 18 à 21. L'auteur de l'épître dit, au verset 18, au chapitre 13, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qui fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, dans ce texte que nous avons lu, l'auteur dit qu'il croyait avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien se conduire. Avoir une bonne conscience, avoir toujours ce désir de bien se conduire. Et quand on est un disciple accompli, ça doit être cela. Toujours chercher à avoir une bonne conduite. Et l'autre chose, il dit, c'est qu'il faut se mettre à la disposition de Dieu pour accomplir sa volonté. Sachant que notre capacité vient de lui, au verset 21, qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et lorsque on est disciple, un disciple bien formé, accompli, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, pour servir Dieu, pour faire ce qu'il a prévu d'avance pour nous, comme on le lit dans Éphésiens chapitre 2. Dieu nous a sauvés, c'est pas juste pour, qu'on lui dise merci, oui, c'est très important, mais aussi c'est pour que nous le servions. Ça fait partie, s'il nous a sauvés, c'est pour que nous le servions. Et donc, l'auteur nous dit que c'est lui qui peut nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Donc, et c'est en cela que nous voyons que pour être ce disciple accompli, il faut laisser Dieu agir en nous, et il le fait à travers sa parole, par son esprit, et nous nous soumettons à lui, à ce que nous lisons, à ce que nous entendons de sa part, et nous cherchons à obéir à sa parole. Donc, il est bon de laisser Dieu faire en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Un autre passage que j'aimerais lire avec vous dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 à 11. Il dit: « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Le disciple accompli est celui qui comprend qu'il doit accepter que la souffrance fait partie de l'arsenal que Dieu a à sa disposition pour nous faire devenir justement un disciple accompli. Ça fait partie des moyens que Dieu utilise pour faire que son disciple grandisse, progresse et devienne un disciple accompli, formé et propre à toute bonne œuvre. Et si on n'accepte pas cette part de souffrance, et en tant que chrétien, ça fait partie des conditions. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 9, verset 23, il dit que voilà, si on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes et à nous charger de notre croix, nous ne pouvons pas être son disciple. Donc, se charger de sa croix, c'est accepter la part de souffrance qui est liée au fait d'être chrétien. Et là, Pierre nous dit que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables et nous rendra donc propres au service qu'il a en vue pour nous. Donc oui, ce texte nous encourage à cela, à ne pas se contenter juste du lait, Encore, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui reprend ses destinataires, qui dit, mais vous auriez dû être des maîtres, vous êtes encore au lait. Et dans la vie chrétienne, malheureusement, on se contente du lait. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut que nous soyons des disciples accomplis pour pouvoir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et chacun doit se remettre devant son Seigneur et dire, oui Seigneur, oui je te remercie parce que, comme on a lu, tu as pris sur toi mes péchés, tu m'as sauvé d'où j'étais, maintenant je veux te servir, mais pour cela tu dois travailler mon cœur, tu dois le transformer, donc ce cœur je te le donne, et que tu puisses me transformer et que le Saint-Esprit que tu as mis en moi puisse faire son œuvre et faire que je sois un disciple accompli pour être utile pour ton œuvre là où tu veux que je sois, ici ou ailleurs. Alors, je dirais, il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Et Satan, il fait tout pour nous empêcher d'être ses disciples accomplis. Il y a beaucoup, quand on lit les évangiles, des disciples qui sont juste restés des disciples bébés, et puis dès qu'il y avait c'est ce que le Seigneur annonce dans la parabole du semeur, la petite difficulté, hop, ils ont abandonné. Donc non, ne soyons pas des disciples comme ça, mais comprenons que l'œuvre de Dieu a besoin d'avancer, et pour qu'elle puisse avancer, Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en lui et qui sont prêts pour accomplir cette œuvre, donc être ses disciples accomplis. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que nous comprenions que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Alors, laissons-la nous transformer et nous allons voir que, comme dit l'apôtre Paul, que notre capacité vient de Dieu. Voilà, et il peut nous rendre capables de choses qui nous dépassent même. Donc, à lui seul, toute la gloire. Et que nous puissions l'honorer par nos vies. Voilà. Et j'ai pensé à ce dernier chant, « Te ressembler Jésus ». C'est dans le « À toi la gloire », le numéro 263. Oui, notre désir doit être de ressembler à notre Seigneur dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, mais aussi pour pouvoir le servir, quelles que soient les difficultés.